soir, 4 jours après le lancement des opérations de traque des ADF à Beni au Nord Kivu, plusieurs bastions de ces rebelles ougandais ont été reconquises par les FARDC. L'armée rassure que toutes les dispositions ont été prises pour contrer toute tentative de ces rebelles de rejoindre une autre province. Quelle lecture faire de ces opérations? C'est notre thème de ce soir. Nous recevons comme invité dans cette émission professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir Alain, bonsoir à tous les autres de la radio Capi.
Dominique Wart, consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, structure dépendant de l'université de Liège en Belgique. Dominique Wart, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à vous et bonsoir à tous vos auditeurs. Oui.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
À Beni au Nord Kivu, les FARDC ont repris le contrôle de plusieurs positions des ADF, 4 jours après le déclenchement des opérations contre ces rebelles ougandais. Des sources locales et la société civile affirment que ces rebelles ougandais tentent de se diriger vers la province orientale. Mais les FARDC affirment que toutes les dispositions sont prises pour contrer toute tentative de ces rebelles de rejoindre une autre province. Martial Papimukeba.
Ce mouvement des ADF est observé depuis 2 jours. Selon des sources locales, ces rebelles ougandais quittent l'Est et se dirigent vers l'Ouest du territoire des Beni. D'après ces mêmes sources, samedi, la mi-journée, ces ADF étaient visibles à Kinyamuseye, Mavete et Moutiei. Ces villages sont situés à plus ou moins 90 km au nord-est des Beniville. Ces informations sont confirmées par des sources de la société civile. Selon ces sources, ces ADF qui fuient la traque des FARDC tentent de se diriger vers la province orientale. Mais les porte-parole nationales des FARDC rassurent, toutes les dispositions sont en place pour empêcher tout mouvement des ADF. Général Léon Kasonga.
Nous sommes une armée nationale. Nous faisons de la planification. Présentement, le commandant de la 9e région militaire, le général-major Jean-Claude Kifwa, est ici avec le chef d'état-major général, justement en prévision de cela, qu'au cas où il serait tenté d'aller vers une autre province, que les mécanismes de sécurité mis en place fonctionnent automatiquement parce que nous avons mission cette fois-ci de neutraliser complètement les groupes armés.
Et rappelons que depuis samedi, les FARDC contrôlent les sanctuaires de Mwalika. Il est considéré par certaines sources sécuritaires comme lieu de ravitaillement des ADF en vivres et d'arrêt alimentaire. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimukeba. Sokola en Lingala, traduisait nettoyer, est le nom des opérations militaires lancées depuis 4 jours par les FARDC pour le désarmement des groupes armés au Nord Kivu. On écoute le porte-parole national des FARDC donner plus de précisions sur ces opérations. Général Léon Kasonga, au micro de Martial Papimukeba.
Le chef d'état-major général de nos forces armées, qui est ici à Beni, a lancé depuis le 16 janvier de cette année l'opération Sokola 1, destinée à neutraliser tous les groupes armés, dont l'ADF. Je dois préciser que la traque des groupes armés, décidée par le commandant suprême, s'est faite de manière simultanée, tant dans les secteurs Rwenzori-Beni que dans le sud de la province du Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu, en ce qui concerne les FDLR. En ce qui concerne le travail de monitoring, il a été convenu. Comme du reste les éléments de la MONUSCO, il y a 6 officiers de l'UPDF qui sont dans la cellule de monitoring. Mais je vous affirme qu'il n'y a jamais d'opération conjointe en ce qui concerne l'opération Sokola. Cette opération est totalement FARDC et sera menée du début à la fin rien que par les FARDC.
En rapport justement avec ces affrontements qui opposent les FARDC aux rebelles ADF dans le territoire de Beni, la MONUSCO dit apporter son soutien aux forces gouvernementales à travers sa brigade d'intervention. Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, quelle est la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu depuis le lancement de l'opération Sokola 1?
Oui, merci, monsieur Alain. Je voudrais commencer par m'excuser à tous les auditeurs, comme c'est la première fois que je participe à cette émission depuis le début de cette année 2014. La situation est telle que, comme vous le savez, à la fin de l'année 2013, les forces armées ont signé effectivement les certificats de décès du M23. Et comme je ne cessais de le dire toutes les fois, il y avait deux forces d'origine étrangère, à savoir les FDLR et les EDF, qui sont particulièrement localisées dans le territoire de Beni. Et aujourd'hui, après la fin du M23, c'est le tour de ces rebelles ougandais qui sont présents dans les massifs de Rwenzori depuis la fin des années 80, parce que ce sont des groupes qui se sont constitués lorsque le président ougandais Yoweri Museveni a pris le pouvoir en 1986. Et que donc, depuis lors, ça fait plus de 28 ans que ces groupes sont localisés dans ce territoire de Beni. Je peux considérer que c'est la plus vieille rébellion que nous connaissons dans la province de Nord-Kivu, parce qu'elle est âgée de plus de 28 ans. Et que donc, aujourd'hui, si les FARC se décident d'en découdre, ce n'est pas la première opération, parce que déjà depuis des années, il y a eu beaucoup d'opérations. Je me rappelle en 2005, j'étais encore maire de la ville de Beni, il y avait une très très belle opération qui était menée par le général Mbouy. En 2010, il y a une deuxième opération qui avait été menée par le général Mayala. Et aujourd'hui, c'est maintenant l'offensive qui est déclenchée par les FARDC pour en découdre définitivement avec cette force rebelle qui a causé désolation, qui a pris des otages. Vous vous rappelez qu'il y a plus de 500 personnes qui sont prises en otage dans le territoire de Beni. Et que donc nous sommes heureux qu'aujourd'hui ces offensives soient déclenchées et nous avons la foi. Et comme cela a été contre le M23, eh bien le territoire de Beni va être totalement libéré pour que des milliers de gens qui sont pris en otage, qui ne vont plus aller à leur champ, puissent les retrouver ainsi la vie, puisse aller comme par le passé. Donc c'est un sentiment de totale satisfaction aujourd'hui. Et nous avons été heureux que déjà l'une des grandes bases qu'on appelle Mualika est sous contrôle des FARDC, qui n'impose pas une guerre classique. Pas comme le M23 qui avait des bataillons et des lignes précis.
Monsieur le gouverneur, Monsieur le gouverneur, si c'est possible de bouger un tout petit peu de l'endroit où vous êtes, parce que on ne vous capte pas bien, votre ligne a tendance à se détériorer.
Oui, je disais donc que ce sont des groupes, je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, allez-y, ça va mieux.
Je dis que ce sont des groupes qui n'utilisent pas la guerre classique, ils utilisent la guérilla, c'est-à-dire des gens qui opèrent en petits groupes, qui prennent des otages ça et là, qui font des embuscades ça et là, et que donc la tactique qui doit être utilisée par nos forces armées ne doit pas être comme celle qui a été utilisée contre les M23. Voilà pourquoi toute la population devra soutenir en renseignement et en information nos forces armées, tout comme en vie, à bout de cette force qui a tellement semé mort et désolation dans les territoires de Beni.
Monsieur le gouverneur, vous venez également de dire que Mualika est considéré comme l'une des bases les plus importantes des ADF, a été reconquise par les FARDC. A-t-on pu jusque-là récupérer quelques otages?
Bon, jusque-là, il est trop tôt de devoir donner le bilan, parce que vous savez, lorsqu'il y a des offensives dans des régions, il y a des otages, c'est que les offensives créent une séparation entre les militaires et les civils. Et que donc, à l'heure qu'il est, il est tout à fait vrai que les civils ou les otages se sont déjà séparés de ces militaires qui sont en brousse. Et que naturellement, il faudra attendre quelques jours pour que ceux qui ont fui dans la brousse puissent retrouver des villages ou les forces armées dans leur fuite. Et à ce moment-là, on peut établir un bilan définitif. Mais à l'heure qu'il est, c'est la débandade totale, parce que les civils ne savent pas supporter la puissance des feux des FARDC telle que la population est en train de ressentir dans les territoires de Beni.
Alors, Monsieur le Gouverneur, à part Mualika, pouvez-vous nous dresser brièvement la cartographie de ces rebelles ADF Nalu? Vous l'avez vous-même dit que c'est l'une des rébellions les plus anciennes.
Oui, c'est effectivement une rébellion qui s'est constituée vers les années 90, après la prise du pouvoir, comme je l'ai dit, par le président. Elle est localisée dans les massifs de Rwenzori, c'est à l'ouest du territoire ougandais. Et ces massifs, nous les partageons effectivement avec l'Ouganda. C'est à l'ouest de l'Ouganda, mais à l'est de la RDC. Et à la suite de la puissance de feu des forces ougandaises, eh bien, cette rébellion a glissé légèrement vers notre territoire, ainsi qu'elle est installée pratiquement à l'est du territoire de Beni, dans ce massif de Rwenzori, ce qui est une forêt dense, difficile à pouvoir bénéficier d'une bonne opération. Et donc, à partir de ce massif, ces rebelles sont disséminés, sont éparpillés sur l'ensemble de la chefferie de Watalinga et secteur de Rundori, et c'est à partir de là qu'ils ont fait pour venir faire des ravages dans les grands centres comme Beni, comme Oïcha, comme dans d'autres grands centres où ils opèrent en enlevant les personnes et en les prenant comme des boucliers humains. Donc voilà brièvement comment on peut localiser ces rebelles ougandais dans le territoire de Beni et particulièrement dans le secteur de Rwenzori et la chefferie de Watalinga.
Professeur Arsène Mwaka, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, vous venez de suivre le gouverneur qui a brossé la situation sécuritaire actuelle dans la province du Nord Kivu et précisément dans le territoire de Beni. Vous êtes élu de Beni. Quelle est votre analyse par rapport au lancement de ces opérations contre les ADF?
Je voudrais d'abord exprimer toute ma satisfaction puisque pendant très très longtemps nous avons signalé que la paix dans la province du Nord Kivu passait par une seule voie, c'est-à-dire par la voie militaire. Et je semble croire que pour le moment le gouvernement nous a très bien compris et la communauté internationale elle aussi semble avoir très bien compris qu'il va falloir résoudre le côté militaire de cette situation. Et donc c'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai appris l'élancement de cette opération, d'autant plus que ces opérations tardaient à venir. Hein, pendant une affaire de 2-3 mois, on a trop annoncé ces opérations et la population a payé le prix, puisqu'on a trop annoncé et on a tardé à commencer. Donc je suis satisfait, mais je voudrais dire que j'espère qu'après l'échec de toutes ces opérations, puisque cette rébellion, comme le gouverneur venait de le dire, elle commence dans les années 90, autour des années 91 exactement, avec notre appui, avec l'appui du gouvernement Mobutu. Les ADF Nalu recrutaient officiellement à Beni, dans la ville de Beni, officiellement. Et les opérations se menaient de façon officielle. Et donc, il y a eu des erreurs du côté gouvernement congolais sous Mobutu qui ont fait que nous avons souffert parce que quelque part, il y a une complicité de notre gouvernement réagissant à l'appui que l'Ouganda a apporté aux rébellions congolaises qui continuaient, qui étaient réfugiés aussi en Ouganda, notamment à l'époque le Parti des Libérations du Congo de Kibingu Marandura et autant de forces. Et les Nalu EDF sont recréés à la suite de l'assassinat d'un certain Kinyamusitu qui était pratiquement le chef d'une rébellion ougandaise du Rwenzori Freedom Movement qui était soutenu par notre gouvernement. Et donc là, c'est des erreurs du côté du gouvernement congolais qui nous ont conduit comme ça à domestiquer une rébellion qui finalement va s'avérer être nocive à notre endroit et nous avons passé plus de 250 mois de souffrance dans cette partie de la République. Et donc c'est avec sentiment de satisfaction que j'apprends cette opération Sokola 1 et j'espère que profitant de tous les échecs des opérations précédentes, on va cette fois-là obtenir la paix dans cette région. Et les erreurs sont connues.
Professeur, vous venez de faire un rappel historique concernant les ADF Nalu. Et il faut dire que jusqu'à une certaine époque, on parlait des ADF Nalu. Et le gouvernement ougandais a d'ailleurs précisé récemment que les Nalu ne sont plus en rébellion et qu'ils font maintenant partie du gouvernement ougandais. Et cette information est confirmée par le porte-parole des FRDC. C'est d'ailleurs pourquoi on ne parle que des ADF. Et donc, professeur, il y a Robert qui nous écrit de Bukavu, Robert Kabandani, qui dit « Coup de chapeau au FRDC, bouter ces gens dehors est une bonne chose, mais les empêcher de ne pas s'infiltrer encore au pays en bouchant tous les endroits par où ces rebelles entrent est une meilleure chose. » Professeur, pour vous, quels sont les préalables pour la réussite de ces opérations?
Oui, je pense d'abord que le côté militaire est la clé de réussite de ces opérations, c'est-à-dire ce que notre armée est en train de faire pour le moment, on ne peut que l'encourager, demander à la population de soutenir. Et donc, ça c'est évident. Mais à côté de ce qui est fait là, j'ai attendu pendant très longtemps le gouvernement en train de dire qu'il avait une thérapie à 3 dimensions, je crois que c'est le moment maintenant. C'est le moment de mettre en marche la diplomatie, parce qu'au même moment qu'on frappe, au même moment on doit dire à l'Ouganda qu'il doit reprendre ses concitoyens. Aux Ougandais, ils doivent reprendre leurs concitoyens. c'est des Ougandais qui doivent rentrer en Ouganda. Bon, maintenant qu'on nous chante qu'il y a, que les Nalu font partie du gouvernement, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on a décidé de scinder. Tout ce que nous savons, c'est qu'à un certain moment, les Nalu, avec beaucoup d'autres rébellions, des Tabliques et d'autres rébellions qui évoluaient dans le nord, ouest de l'Ouganda, avait décidé de créer un mouvement qu'ils avaient appelé EDF. Et donc, ce mouvement continue à nous insécuriser jusqu'à ce jour. Et donc, on ne dira pas et on ne fera pas croire aux gens qu'il n'y a pas d'Ougandais là-bas. Il y a des Ougandais et on va les traquer, mais je ne vois pas là où ils vont aller. Ils doivent rentrer chez eux. Il doit y avoir un processus qui est lancé en Ouganda. Comment nous, le Congo, on nous oblige, nous, à partir de l'Angola, d'ailleurs le sommet récent de Sergel nous oblige, nous, de voter la loi de l'amnistie très urgemment, et ainsi de suite, et de récupérer nos gens qui sont en Ouganda. Et pourquoi un processus de ce genre ne serait pas négocié par nous, initié par le Congo, par notre diplomatie, pour que l'Ouganda reprenne aussi ces hommes à lui qui nous gênent fortement, parce que ces hommes ne gênent même pas du tout l'Ouganda. Et donc, je semble croire qu'à côté de ce qui est militaire, il doit y avoir un processus sérieux, diplomatique, une grande pression de la communauté internationale pour que l'Ouganda reprenne ces rébellions. Cela est valable aussi pour le Rwanda avec le FDLR.
Dominique Wert, vous êtes consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, structure dépendante de l'université de Liège en Belgique. Vous venez de suivre le professeur Arsène Mouaka ainsi que le gouverneur Julien Paluku. Comment vous analysez le lancement de ces opérations contre les ADF?
Écoutez, moi je l'analyserai en points, si vous me permettez. Le premier point, quand même, c'est que malgré.
Dominique, la qualité de votre ligne est très mauvaise. La réalisation va tenter de vous rappeler pour voir si on peut l'améliorer. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, le professeur Arsène Mouaka disait tout à l'heure que l'option militaire à elle seule ne suffisait pas et qu'il fallait appliquer maintenant à l'option diplomatique. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, je partage ce point de vue parce que comme les choses, l'État n'a fait de le dire, lorsqu'il avait initié ces trois options, l'option politique, diplomatique et militaire, je crois qu'à l'instant où maintenant on démontre que l'option militaire est un chef, on doit le chef de parler aux Ougandais comme ça a été demandé pour les Rwandais, de manière à ce qu'on obtienne que le processus de DDR, ou qui semble être la voie au futur pour la RDC, et soit pour les autres pays pour lesquels nous hébergeons les criminels. C'est-à-dire si aujourd'hui, ou demain, cette force de l'IS Nalu, il faudrait que l'Ouganda entre à son niveau dans le processus de désarmement, de mobilisation et de réception, pour que qui demain vont être pris ça et là dans les circuits, dans la face des FRDC, puissent trouver un canal dans lequel ils vont rentrer chez eux. On ne sait pas que devrait être le standard. Mais je trouvais que c'est tout à fait normal qu'au niveau de la conférence internationale, on fasse place pour la RDC à l'endroit de tous les autres pays du monde pour qu'ils adoptent la structure et ainsi on fera la paix dans la région des Grands Lacs.
Monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur. Oui. Nous allons tenter de vous rappeler aussi, parce que décidément on a un petit problème de ligne ce soir, la qualité de votre ligne n'est pas du tout claire. La réalisation va également tenter de vous rappeler pour voir si ça peut s'améliorer. Professeur Arsène Mouaka, il y a un moment déjà, on parlait de la traque des FDLR, mais l'opération contre les ADF a semblé un peu masquer celle des FDLR.
Oui, je crois qu'il y a une accélération au niveau de Beni qui a fait que finalement l'opération contre les Nalu EDF s'avérait être plus urgente, d'autant plus qu'il y a eu une multiplication des assassinats, des tueries, des attaques. En fait, Les ADF Nalu obligeaient pratiquement notre gouvernement d'aller les attaquer, puisque pendant plusieurs mois, on a claironné pour dire qu'on allait les attaquer et attendaient apparemment des pieds fermes notre armée. Et finalement, ce sont eux qui ont obligé à notre armée d'aller finalement attaquer, surtout qu'il y a eu une succession de mauvaises nouvelles. On a suivi comme ça l'assassinat du colonel Mamadou, qu'on regrette énormément. Donc tout cela a semblé contribuer apparemment à ce que finalement, pour l'intérêt du pays, qu'on puisse les attaquer. Mais sinon, je semble croire qu'il y en a qui pensaient qu'il fallait commencer par les FDLR, parce que ça constitue la priorité apparemment pour la communauté internationale. Mais je crois que les intérêts du pays obligeaient qu'on intervienne très rapidement là où il y avait une accélération des assassinats, des enlèvements, des kidnappings et des attaques des localités comme Kamango et autres.
Alors, les ADF, vous l'avez dit, le gouverneur Julien Paluku d'ailleurs également aussi, c'est l'une des plus vieilles rébellions. Ne peut-on pas craindre, professeur, que dans ce genre d'opération, que ces rebelles qui maîtrisent mieux le terrain, qui ont d'ailleurs passé beaucoup plus d'années dans ces contrées que beaucoup d'originaires, ne puissent trouver des astuces? Le gouverneur a parlé même de la guérilla qu'ils utilisent comme technique de combat.
Absolument, on n'est pas dans n'importe quelle brousse. Nous sommes dans le parc national de Virunga, dans la station nord du parc national de Virunga. Et donc, c'est des parties qui sont interdites de visite et autres. Et donc, c'est un véritable sanctuaire des rébellions. Et plusieurs rebelles sont passés par là. Des gens comme Kissa Sengandou, Laura Désiré Kabila et tous les autres sont passés par ce sanctuaire qui n'est pas du tout facile. Et donc, je semble croire que là, notre armée a une guerre la plus périlleuse. Et les dispositions doivent être prises. Mais je semble croire qu'avec tous les dispositifs de la communauté internationale, notamment le drone et tout le reste, l'aide de la brigade, ainsi de suite. Et là, j'en profite pour dire à la communauté internationale qu'elle doit absolument aider le Congo, puisque je crois que si nous nous en tenons à l'accord cadre d'Addis Abeba, il a été dit que cette brigade va nous aider, nous, à traquer toutes les forces négatives. Et je crois qu'on est en face de la force négative la plus terrible. Hein, on a toujours suivi la verve du Rwanda qui claironne pour dire que c'est le sol FDLR qui sont le plus grand danger. Mais je crois que là, on est en face du plus grand danger. Une rébellion qui a passé plus de 250 mois dans notre république, qui a des attaches terribles, qui a pratiquement des villages entiers dans le parc national de Virunga qu'elle occupe, ainsi de suite, donc, et qui sont aguerris, surarmés, ainsi de suite. Et donc je semble croire qu'on a une véritable guerre, et notre armée a besoin de l'appui de sa population, mais de l'appui politique. Et donc je crois que la communauté internationale doit accorder une plus grande importance, et c'est le temps de sortir les drones.
Alors professeur, quand vous dites que la communauté internationale semble privilégier la traite des FDLR alors que le gouvernement congolais c'est plutôt celle des ADF, comment vous expliquez ce conflit d'intérêts?
Bon, je crois que au niveau de la communauté internationale, il y a une lecture qui semble être orientée. Puisque à chaque fois qu'on parle de forces négatives, tout de suite on voit les FDLR. Mais on oublie une rébellion qui a fait des morts et des morts, qui a fait des enlèvements, qui est un véritable danger, puisque on y cite des El-Shabaab, on y cite toutes les forces négatives reconnues sur le plan internet, des forces terroristes, permettez-moi l'expression, et on oublie que les Congolais souffrent, puisque nous avons grandi, moi je suis parmi les Afa qui ont grandi sous les bottes de cette rébellion. Nous connaissons comment a fait le bruit de chacune des armes. On sait que ça c'est telle arme, puisqu'il y a eu tellement des opérations, et il y a eu des persécutions de la population, où la population était rendue comme esclave de telle sorte que pour nous c'est vraiment, je semble croire que la meilleure d'apprendre qu'il y a finalement une opération.
La réalisation me signale que le gouverneur Julien Paluku est en ligne, mais avant de lui donner la parole, professeur Mwaka, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
C'est Bernard Haïti Dramile, à partir de la ville de Goma, province du Nord Kivu. À mon humble avis, il ne faut pas que les opérations de poursuite des rebelles, des ADF se diffusent à la radio. Parce qu'un rebelle, c'est quelqu'un qui se forme beaucoup. Plus il se forme, plus il se positionne. Mais au contraire, il faut plutôt diffuser les résultats des traques à terme de bilan. Bref, que ces opérations se passent d'une façon silencieuse.
Toujours en ce qui concerne la communication, professeur, y a Jérémy Kiambo qui nous écrit également de Goma en Nord Kivu, lui qui dit quelle est la politique mise en place pour protéger les populations civiles, car les ADF maîtrisent beaucoup plus cette région et cette population risque d'aller se croiser avec eux en fuyant. Je voudrais plutôt que l'on communique suffisamment comment et dans quelle direction faut-il se réfugier. Professeur, finalement, dans cette situation, la communication en temps de conflit, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas communiquer?
Je crois que l'armée a des spécialistes et notre armée, de plus en plus, elle repasse l'être de noblesse de telle sorte que nous n'allons pas la remplacer. Ceux qui dirigent les opérations maîtrisent mieux que quiconque cette région et je crois qu'avec toute la technologie qui est à leur disposition, ils sont en mesure de donner la meilleure communication à la population et ils sont en mesure de bien orienter la population. Et donc, je semble croire qu'à force de vivre aussi ces exactions, la population connaît le mieux ces choses et je crois que l'armée a intérêt aussi à s'appuyer sur la population. Donc, je ne suis pas contre ce que Bernard dit. On a trop médiatisé le front et ainsi de suite. Bon, je crois qu'il est temps qu'on puisse travailler comme une armée travaille. C'est une muette.
Merci. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous êtes en ligne? Vous nous suivez?
Oui, je vous entends très bien. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous.
Voilà, nous vous entendons nettement mieux. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous partagez le point de vue selon lequel il y aurait un conflit d'intérêts entre la communauté internationale et le gouvernement congolais autour de ces opérations, le gouvernement qui privilégierait la traque des ADF et la communauté internationale, elle qui voit plutôt les FDLR?
Oui, à ce sujet, je crois que la problématique dans les Grands Lacs a été souvent biaisée. Biaisée parce qu'effectivement, tout le monde a vu le génocide qui s'est passé au Rwanda en 1994. Et cela a aveuglé tout le monde de manière à ce qu'on n'a plus vu d'autres forces négatives. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On pense que à l'est de la RDC, il n'y a que ceux qui ont commis le génocide au Rwanda qui constituent une force négative. Alors que vraisemblablement, même si on va parler de FDLR, il ne constitue pas une menace contre le Rwanda au stade actuel. Il constitue une menace contre la République démocratique du Congo parce que les maisons qui sont incendiées, les femmes qui sont violées, les hommes qui sont tués ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Et aujourd'hui que le gouvernement a ciblé les rebelles ougandais, il faut que les gens sachent qu'à l'heure qu'il est, il y a plus de 500 personnes qui sont prises en otage par ces gens depuis plus d'une année. Et je ne pense pas aujourd'hui que l'on dise au gouvernement congolais qu'il a tort de chercher à libérer ces personnes qui sont prises en otage, qu'il a tort aujourd'hui de chercher à libérer ces espaces qui sont tenus depuis plus de 20 ans par une rébellion. Je crois que la communauté internationale devra comprendre que la RDC comme État souverain a ses priorités et vous avez suivi les porte-parole du gouvernement congolais. Il a confirmé que les opérations seront menées simultanément contre les rebelles ougandais et contre les FDLR. Donc c'est à nous de définir quelle est la grande menace actuelle contre notre peuple pour que nous puissions fonder nos opérations. C'est cela, moi, ce que je peux tirer comme leçon au regard de cette gestion de la crise des Grands Lacs qui a souvent été biaisée par le génocide qui a été commis au Rwanda et que nous regrettons tous.
Monsieur le gouverneur, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu, Sud Kivu. Traquer les rebelles ADF, c'est bien. Cependant, je ne pense pas que ces opérations puissent durablement pacifier et sécuriser cette partie du Nord Kivu, aussi longtemps que l'on ne mettra pas encore totalement en œuvre l'accord cadre d'Addis Abeba pour en finir une fois pour toutes avec le mouvement rebelle à l'est de la RDC.
Réaction, monsieur le gouverneur.
La population congolaise ne doit pas demander une chose en son contraire. On demande au gouvernement de pouvoir la sécuriser et puis la population elle-même demande que ce n'est pas une solution. Et je crois que Robert Bahome de Bukavu, qui intervient souvent à cette émission, ne doit pas le faire par complaisance. Lorsqu'aujourd'hui le gouvernement décide de devoir traquer ces rebelles, c'est au regard des souffrances que le peuple de Beni a connues. Si l'accord cadre existe, il a été signé par les partenaires, il y a des engagements, non pas seulement de la RDC, mais il y a des engagements des pays voisins, il y a des engagements de la communauté internationale, il y a des engagements de la région des Grands Lacs. Et que donc cet accord cadre ne peut pas empêcher l'État congolais, en tant qu'État souverain, de devoir cibler les problèmes, de les attaquer, de les éradiquer, de les déraciner, de manière à obtenir la paix durable à sa population. Donc je considère que le gouvernement est en droit de devoir focaliser son attention aujourd'hui sur les ADF, pour que demain, les populations de Beni puissent vivre calmement comme d'autres populations à travers la République.
Dominique Ouart, est-ce que vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui, je suis là. Suis revenu et désolé pour la mauvaise communication, mais comme quoi...
C'est indépendamment de votre volonté. Voilà. Alors, je vous demandais lors de ma première question, comment vous analysiez le lancement de ces opérations contre les ADF et d'ailleurs contre tous les groupes armés FDLR compris.
Mais écoutez, moi je l'analyse en 6 points. Le premier point, on avait dit lors de la disparition dramatique du colonel Mamadou que les FRDC serait peut-être en difficulté pour poursuivre les opérations militaires qui avaient été décidées fin de l'année passée. On voit bien aujourd'hui que la structure, avec tout le respect que j'ai pour le colonel Mamadou, mais que la structure des forces armées de la République démocratique du Congo fonctionne et que les réformes qui ont été engagées par le chef de l'État et le gouvernement dans le cadre justement de l'accord cadre d'Addis Abeba, ces réformes des services de sécurité, qu'ils soient au niveau de l'armée ou qu'ils soient au niveau de la police, eh bien, ça donne aujourd'hui des résultats, puisque on a de nouveau, comme on l'avait avant Noël, des réussites militaires sur le terrain dans la traque contre ce mouvement rebelle des ADF Nalou. La deuxième chose que je voulais dire, et je pense que vous en avez un petit peu parlé, moi je suis quand même un tout petit peu surpris par la position de ce qu'on appelle toujours la communauté internationale, mais donc aussi un de ses représentants majeurs, à savoir la MONUSCO. On ne sent pas aujourd'hui, me semble-t-il, mais peut-être que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, me contradira, mais on ne sent pas aujourd'hui que les forces de la MONUSCO, que ce soit au niveau de la brigade d'intervention rapide ou des forces classiques de la MONUSCO, on ne sent pas aujourd'hui un appui très net de la MONUSCO dans les opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont à Beni, ils sont en train de sécuriser l'aéroport, mais on voit bien qu'il n'y a pas une volonté très nette de vouloir soutenir et accompagner la République démocratique du Congo dans sa traque contre les ADF Nalou. Y aurait-il alors dans ce cadre-là des interventions venant des pays voisins auprès de la communauté internationale pour dire que la priorité doit être les FDLR et pas les ADF Nalou? Moi, je rejoins tout à fait le professeur qui parlait à l'instant en disant la République démocratique du Congo est un pays souverain. C'est elle, évidemment, en accord avec les forces de la communauté internationale qui sont présentes sur son territoire, mais en collaboration et en communication, mais c'est encore elle qui décide quelles sont les zones qu'il faut aujourd'hui sécuriser et libérer de ces forces négatives afin de pouvoir apaiser la population.
Dominique Huert, vous avez parlé
Quatrième chose, je suis un peu... je suis aussi un peu surpris par la volonté exprimée par les autorités de la République démocratique du Congo en disant que c'est une opération militaire uniquement menée par les FRDC et que l'Ouganda et donc l'armée régulière de Museveni n'est absolument pas impliquée dans cette traque contre les ADF Nalou. Alors, le problème n'est pas de savoir s'il faut qu'une armée étrangère vienne intervenir dans un territoire souverain, mais la vraie question, elle est quand même de se dire que les intérêts, notamment avec le sous-sol de cette région-là de la République démocratique du Congo, et donc cette région-là, c'est le Grand Nord et évidemment le sud de la province orientale, les intérêts du sous-sol sont malgré tout communs. Et donc, il faudrait, me semble-t-il, qu'il y ait une collaboration, y compris militaire, entre l'armée régulière de l'Ouganda et les forces armées de la République démocratique du Congo.
Dominique,
parce que, à terme, il s'agit quand même de pouvoir pacifier cette zone afin de pouvoir profiter des richesses qui se trouvent dans le sous-sol.
Dominique,
la cinquième
Dominique,
chose que
Dominique,
je voulais dire...
Dominique,
oui,
oui. Avant que vous n'énonciez les deux autres points, juste d'abord préciser, je l'ai dit en début d'émission, qu'en rapport justement avec ces opérations, la MONUSCO dit apporter son soutien aux forces gouvernementales à travers sa brigade d'intervention. Et avant d'énoncer une fois de plus les deux points qui restent dans votre intervention, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasai occidental.
Maître Adrien Ilobako et Perro à Kananga au Kasai occidental. Les opérations militaires telles que menées par les FRDC contre les AIDF ne réussiront jamais tant que le voie politique et diplomatique ne seront pas mêlées. C'est ici où jamais la communauté internationale devait saisir l'opportunité pour s'imposer au pays d'appartenance de ces groupes armés pour qu'ils négocient avec leurs sujets, comme ce fut le cas de la RDC avec le M23 et les autres groupes armés qui apparaissaient en RD Congo.
Dominique, la réussite de ces opérations passe-t-elle par le fait de demander à l'Ouganda de négocier directement avec les ADF?
Oui, écoutez, moi je pense, c'était justement mes deux derniers points, donc l'intervention de votre auditeur tombe vraiment très très bien, j'allais justement l'illustrer par les deux derniers points. Oui, bien entendu, moi je pense que, notamment pour le bien-être de la région et de la sous-région, il est évident que, comme d'ailleurs le président Kikwete l'avait dit, vous vous rappelez, lors du 50e anniversaire de l'Union africaine, il avait dit, mais finalement, à ses collègues du Rwanda et de l'Ouganda, est-ce que vous ne devriez pas lancer un processus de dialogue national et interne avec ces forces négatives qui viennent de vos pays, qui sont contre votre régime, mais qui sévissent sur le territoire congolais? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que, puisqu'on a imposé, qu'on a demandé au gouvernement congolais de mener ses propres concertations nationales, son propre dialogue national, ne faudrait-il pas que, et le Rwanda engage un dialogue national avec les FDLR, et bien entendu l'Ouganda engage un dialogue national et interne avec les forces des ADF Nalu. Donc oui, moi je pense que c'est évidemment une des solutions. Il faut voir quand même que peut-être que cette opération militaire doit être mise aussi en perspective du cinquième dernier sommet qui vient d'avoir lieu des chefs d'État de la communauté internationale de la région des Grands Lacs, où on a vu qu'il y a eu un changement de présidence, puisque maintenant c'est l'Angola avec le président Dos Santos qui est le président, et merci, plus l'Ouganda avec le président Museveni. Est-ce que ça aussi ce n'est pas une bonne nouvelle, puisque évidemment tant que c'était l'Ouganda qui avait la présidence de la CIRGL, ben, il était un petit peu jugé parti par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC, et notamment par rapport à ce qui se passe au nord Kivu et au sud de la province orientale. Et donc ici, on a maintenant une nouvelle présidence de M. Dos Santos, qui est le président de l'Angola, qui est évidemment à l'ouest de la région des Grands Lacs, qui est moins concerné par les groupes armés,
et donc,
les groupes rebelles
et
toutes ces forces négatives qui sont...
Et donc, il risque de changer beaucoup de choses, on l'a compris, Dominique Ward, je vous redonne la parole tout à l'heure. Monsieur le gouverneur, avant de passer la parole au professeur Mwaka, il y a Amos Bissimwa de Bukavu Sud Kivu qui dit « Ces opérations sont à encourager du fait qu'elles vont libérer les territoires jadis occupés par les ADF. Ne va-t-on pas encore vivre le scénario au gouvernement M23 qui, malgré sa défaite militairement, se réorganise aujourd'hui dans nos pays voisins ?» Brièvement, monsieur le gouverneur, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission.
Non, mais je voudrais d'abord revenir sur l'interrogation au sujet de l'appui de la MONUSCO. Je voudrais fixer l'opinion par rapport à cette question, si vous le permettez.
Allez-y rapidement, je vous en prie.
Oui, moi je crois que nous devons être normaux et sérieux. Vous savez que lorsque la guerre a eu lieu au nord de Goma, la brigade d'intervention a appuyé les FRDC pour qu'on détruise le M23 à Kibati et à Kilimanyoka. Et aujourd'hui, si nos forces armées sont capables de se mouvoir pour aller vers le nord, c'est parce qu'effectivement il y a cette menace du M23 qui a disparu. Et que donc on ne peut pas dire que la MONUSCO ne nous a pas soutenus, parce que c'est grâce à cet appui au niveau stratégique qui nous a permis de voir démanteler le M23 qu'aujourd'hui les FADC peuvent se mouvoir vers le nord. De deux, il y a plusieurs façons de faire la guerre. Il y a une guerre physique, il y a une guerre stratégique. Et vous savez qu'aucune guerre ne peut réussir sans les renseignements. Et vous savez que la MONUSCO, par la puissance de son matériel, a tous les renseignements sur la zone rebelle et elle a partagé ces renseignements avec les FARDC qui les utilisent pour aujourd'hui savoir à quel lieu précisément se retrouvent les rebelles ougandais. Donc il faudrait que l'opinion sache que c'est aussi une manière de participer à une guerre. Ce n'est pas seulement la participation physique où on voit deux ou trois balles sortir d'un fusil tenu par un casque bleu qu'on appellerait naturellement une participation de la MONUSCO. Je voudrais donc fixer l'opinion par rapport à ça pour dire que je reconnais sous l'autorité du chef de l'État le travail qui est réalisé par la MONUSCO dans la province du Nord Kivu. Alors, maintenant, l'auditeur nous dit, est-ce que ne va-t-on pas assister à ces à quoi on a assisté contre le M23 pour dire qu'après la défaite, on va encore les réorganiser? Non, ce n'est pas le cas ici parce qu'ici, il ne s'agit pas des rebelles congolais. Il s'agit des rebelles d'origine ougandaise avec lesquels il n'y a aucune possibilité de nous mettre autour d'une table pour discuter intégration et réinsertion dans notre pays. C'est des Ougandais Merci. Qui devront, à la suite d'un processus, aller chez eux et être réinsérés en Ouganda et ne pas bénéficier de certains avantages comme ça a été le cas avec le M23.
Merci, professeur Arsène Mwaka. Il y a Dominique Wirth qui, concernant la collaboration de l'armée ougandaise, pense qu'il faudrait plutôt encourager cette collaboration au lieu de la repousser comme le fait la RDC.
Bon, je semble croire que nous sommes en train de faire le travail de l'Ouganda. C'est la menace de l'Ouganda que nous sommes en train de défaire. Et de ce point de vue, je semble croire que la collaboration qu'il peut y avoir avec l'Ouganda, je soutiens ce point de vue, c'est de déclencher un autre processus en Ouganda. Et c'est un soutien précieux que l'Ouganda peut nous donner. Je semble croire que notre diplomatie va s'affairer à ce que l'Ouganda puisse ouvrir un processus politique chez lui. Et sinon, j'encourage notre armée, j'encourage la communauté internationale à faire ce qu'elle a fait au niveau de Goma et autres Rutshuru. Le gouverneur vient de le dire qu'ils ont fait des choses à Goma, Rutshuru. Je demande au gouverneur et à moi, député, que nous puissions encourager cette communauté internationale à refaire le bien qu'il nous a fait vers le sud de la province, afin que le nord de la province soit aussi libéré. J'encourage la population à soutenir notre armée.
Alors, professeur, il nous reste moins de 3 minutes. Il faut déjà conclure. Ces rebelles sont repoussés. Il y a des informations qui signaleraient qu'ils seraient en train de monter vers la province orientale. Dans quelle direction, finalement, doit-on les repousser en guise de conclusion?
Et justement, c'est cela la difficulté, puisque le M23 a été repoussé. D'où il est venu? Les rebelles ougandais sont recherchés en Ouganda. Nous allons les repousser vers où? C'est là que j'ai dit, c'est la guerre la plus périlleuse. Elle demande une grande dimension diplomatique. Et donc, nous les déstabilisons, moi c'est ce que je retiens, mais sinon ils s'y disperseront à travers nos brousses et nous risquons d'avoir des difficultés. Je crois qu'au même moment qu'on les traque, qu'on les déstabilise, au même moment il doit y avoir un processus qui est lancé au niveau de Kampala et la communauté internationale doit nous accompagner dans tout ça pour que finalement cette région soit évacuée, sinon cette opération sera une opération en plus, parce qu'il y a eu une opération de plus, parce qu'il y a eu plusieurs opérations de ce genre.
Dominique Wirth, en guise de conclusion, comment faut-il envisager l'avenir après ces opérations contre les groupes armés et particulièrement les ADF et les FDLR?
Mais écoutez, moi je pense qu'il faut avoir une triple approche. Je pense qu'on a bien compris, et moi je reviens vraiment au discours du chef de l'État qu'il a tenu il y a maintenant plus d'une année, au moment où début 2013, quand il y avait les premières opérations qui se mettaient en place et dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Moi je pense qu'il faut maintenir toujours la triple approche. L'approche militaire, évidemment, parce qu'on sait aujourd'hui qu'elle est essentielle pour pacifier la région.
Merci.
L'approche politique qui doit être évidemment internationale, mais aussi.
Voilà, merci Dominique Wirth. L'émission touche déjà à sa fin. Monsieur le gouverneur, juste un mot pour conclure, brièvement.
Oui, que les gens ne puissent pas avoir peur de la dispersion des rebelles ougandais. Il y a une stratégie d'encerclement qui est en train de se monter au niveau des forces armées. Eh bien, je pense que tous nous devons soutenir nos forces armées, société civile, population, autorités locales, pour que nous puissions venir à bout de cette force qui a longtemps déstabilisé la partie de la province.
Merci, monsieur le gouverneur Julien Paluku. Je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Merci au professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Et merci à Dominique Ward, consultant de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, structure dépendante de l'Université de Liège en Belgique. Merci à vous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.